C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Marc Messier nous présente son tout premier spectacle solo, seul en scène. Et c'est une tournée, donc 23-24 novembre au Théâtre Outremont à Montréal et il y aura également le 7 décembre à Québec, salle Albert Rousseau. Marc, bonjour.
Bonjour.
Je te le disais, j'ai été surpris d'apprendre que tu n'avais jamais performé seul sur une scène, toujours pièce de théâtre, toujours en interaction avec les autres.
Oui, c'est la première fois que je suis vraiment seul. Là.
Pourquoi ça te tentait pas? Tu as jamais pensé? Il n'y a pas eu d'occasion?
J'ai pensé souvent au fil des années. C'est une forme de spectacle qui m'a toujours attiré. Mais bon, j'étais bien dans ce que je faisais, puis j'étais surtout très très occupé avec Brou, puis avec les tournages et tout ça. Et puis, quand on a fini de jouer Brou, là, je me suis dit, ouais, peut-être que ça serait le moment, peut-être, d'essayer ça. Mais j'ai joué dans une pièce au Centre du Théâtre d'aujourd'hui où je faisais un petit monologue. Une pièce qui s'appelait Neuf. Et c'est là, en fait, que la première fois que j'avais demandé à Manny Solomon-Lou qui montait la pièce, je dis, je peux-tu faire un petit monologue de 3-4 minutes? Puis j'avais eu une idée de quelqu'un qui discute.
Quand je l'ai vu à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Et ça a commencé.
C'est vrai que c'était c'est un monologue. C'est ça. Un vrai.
Et ça a commencé comme ça. Et quand, là, il y a, quand les circonstances ont fait que François Rozon, à un moment donné, me dit « ça t'a jamais tenté de faire un spectacle solo », j'ai dit « oui, ça m'a tenté, mais je ne sais pas si vraiment j'aurais quelque chose à dire ». Ou... Et je suis parti de ce monologue-là pour écrire le spectacle.
Sur l'ego.
C'est-à-dire que
c'est la base, là, un peu.
Ouais, c'est ça. J'imagine quelqu'un qui a une discussion avec son ego. Ce quelqu'un étant moi, finalement, mais ça pourrait être quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Jean-Jacques Potvin, ou, mais bon, c'est moi. Et je profite en même temps de ça pour revisiter un peu ce que je fais, raconter un peu les années 50 au Québec, les années 60, mon parcours un peu avec le théâtre et tout ça.
Mais ça veut dire que tu as connu l'époque qu'on appelait un peu la grande noirceur par la bande, le pouvoir de l'Église, entre autres.
Ouais, la fin. Dans les années 50, moi, j'étais enfant. Je suis né en 47, donc j'étais enfant dans les années 50 et c'était... je pense que ceux qui ont connu ça s'en rappellent, mais c'est incroyable les changements qu'il y a eu depuis ces années-là. La religion dominait tout, à tort ou à raison. Parfois, tu sais, bon, l'éducation était dans les mains des religieux, des prêtres. Les collèges étaient dirigés par eux. Le pouvoir politique ne pouvait pas fonctionner sans marcher main dans la main avec le clergé, je pense. Alors, c'était une époque où tout était serré, tout était...
Mais les gens ont arrêté un jour d'aller à la messe. C'est assez extraordinaire. Là. Ouais. Puis pour un peuple qui, systématiquement, c'était un incontournable sous peine...
Non, ça a été extraordinaire. Dans les années 60, à un moment donné, pouf, ça a ouvert tout d'un coup. Et ceux qui ont mon âge, qu'on appelle les baby boomers, et qu'on appelle dorénavant les aînés...
Es-tu à l'aise avec ça?
Ben, c'est-à-dire qu'on était un peu surpris. En cinq minutes, on est passé de bébé boomer à aîné. Mais mais écoute, ça dépend comment on se sent. Je me sens ni vraiment aîné, ni vraiment bébé boomer. Mais nous, dans les années 60, c'est extraordinaire parce que tout explosait. Il y a beaucoup de clôtures qui tombaient. On pouvait vraiment... Il y avait une liberté qui s'installait. Une liberté de pensée, une liberté de parole, beaucoup plus que dans les années précédentes.
Quand tu parles de l'ego, d'abord, en as-tu un? Il est de quelle dimension?
Ben, je pense, Paul, qu'on a tous un ego, mais puis je pense que ça en prend un. Mm-hmm. Sinon, on se ramasse, on se fait écraser, tamper, c'est pas long. Oui, moi, j'ai un ego comme tout le monde. Sauf que, bon... Moi, je parle d'ego. En fait, c'est un peu la voix intérieure qu'on a, que certains appellent la conscience. Ou la... Moi, je l'appelle l'ego parce que c'est plus intéressant, parce que l'ego a mauvaise réputation. Tu comprends? L'ego peut être superficiel, peut être vantard, prétentieux, narcissique. Alors, ça amène beaucoup d'eau au moulin quand tu veux... Alors, l'espèce de conflit, à un moment donné, que tu peux avoir avec ton ego, parce qu'au début, mon ego est très gentil avec moi. Il m'amène à découvrir le théâtre. Il m'amène à faire plein de choses. Que peut-être moi, j'aurais moins de, d'audace que lui. Et
Est-ce que tu visites, je sais pas moi, des rôles que tu n'as pas eu, des mauvaises critiques, comment l'ego...
Non, je ne vais pas beaucoup là-dedans. C'est comme les rôles que j'ai joués, je fais ça assez brièvement. Parce que les gens savent ce que j'ai fait finalement. En fait, les rôles parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est plus l'intérieur, la voix intérieure de l'acteur. Genre, je passe une audition à un moment donné. Les débuts qui sont difficiles. Et puis, c'est ça. Je tranquillement, je raconte un peu comment j'ai rencontré... Michel Côté, Marcel Gauthier, comment est-ce que Brou est arrivé à un moment donné. Mais ça, c'est assez bref.
Là, les gens s'attendent à quoi tu penses? Mais d'abord, tu l'as testé, là, le
spectacle? Oui, ça fait quand même 20, au-dessus
à Magog,
de 20
je pense,
fois que
ouais.
Je l'ai joué au Théâtre de la Marjolaine cet été, pendant une quinzaine de représentations, et là, ça fait à peu près presque 25, je pense, que je fais.
Puis les gens s'attendent à quoi? Puis quelle est leur réaction en salle jusqu'à maintenant?
Ben, je ne sais pas trop à quoi les gens s'attendent. Mais d'abord, moi, j'ai la réputation de jouer dans des comédies, puis c'est effectivement un spectacle de comédie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autodérision, puis je me moque de bien des choses. Premièrement de moi et ensuite un peu de la façon que ça se passe un peu dans le métier.
Donne-moi un exemple.
Ben, à un moment donné, je passe une audition pour un commercial et ça part d'un fait vécu. Hein. Je ne veux pas vous raconter tous les punchs.
Non, mais un.
Moi, j'ai passé une audition une fois dans un commercial au début. On fait toutes sortes d'affaires. Hein. Le monsieur, il cherchait une voix pour faire le fromage la vache qui rit. Alors là, je me suis retrouvé dans le bureau avec le monsieur où il me dit « Fais-moi une vache ». J'ai dit « Pardon ». Il m'a dit « Fais-moi une vache, fais la voix d'une vache ». Alors là, tu fais un « brrr », tu sais, mais t'es tout seul avec le gars, là, ça fait que c'est un peu ridicule. Et là, je sors de là, j'en revenais pas, tu comprends, toi, t'étudies, puis tu fais des pièces, puis tout. Puis là, faut que tu fasses « brrr », puis là, t'as besoin de l'avoir, parce que t'as pas d'argent, comprends-tu. Et là, on est à peu près 8-9 qui attendent chacun leur tour.
Pour faire la vache.
Faire la vache. Alors, il y a des circonstances comme ça assez loufoques qui peuvent arriver dans la vie d'un comédien, surtout quand tu débutes dans le métier, que t'as pas le choix finalement.
Comment tu t'es senti seul devant un public, toi qui es habitué d'être avec des camarades puis en interaction avec les autres? Là?
Ben les premières représentations, j'étais un peu, je cherchais mes repères. Tu sais, je me suis aperçu la première fois. D'abord, dans les répétitions, c'est assez spécial. Répéter tout seul puis parler à une poignée de portes. Parce que il y avait Manny qui est mon metteur en scène, qui lui prenait des notes, et Jean Gaudreau qui est son merveilleux assistant, qui lui suivait le texte, et moi j'avais une poignée de porte dans la
cible,
salle de répétition,
ouais.
Une cible pour me dire faut que je parle à quelqu'un ou quelque chose.
Mais t'as pas de réaction, je veux dire.
Non, c'est peu, ça, t'as pas de réaction. C'est difficile de trouver le rythme, c'est difficile de savoir si c'est drôle, et quand t'arrives devant le public, tout est une surprise et t'as pas le temps de réagir vraiment parce que t'es seul. Si tu parles pas, il y a personne qui parle. Alors c'était quand même, mais en même temps c'est très exaltant. C'est comme tout ce qui est exigeant. Hein. C'est très satisfaisant quand ça finit par arriver là. Mais j'ai trouvé ça bien excitant. Mais c'est sûr que les premiers spectacles c'est un petit peu.
Il me semble que t'as vécu tellement de choses puis tellement de succès. Auxquels les Québécois s'identifient. Là. Brou est un exemple, L'Anse et Comte est un exemple, La Petite Vie, c'est un autre exemple. Penses-tu un jour écrire une biographie, de raconter ta vie, ta carrière?
Je sais pas. J'aime mieux faire ce que
ça,
je fais. J'aimerais vraiment mieux faire ça, transposer que d'écrire. Moi, j'aime ça. C'est la création artistique qui m'attire là-dedans. C'est ça qui me... Et j'aime ça jouer. J'aime ça jouer sur scène. J'aime ça jouer des personnages. Pas nécessairement ma vie. D'ailleurs, dans le spectacle, c'est plus des époques que nécessairement moi, même si, bon, j'ai décidé de partir d'événements qui me sont vraiment arrivés pour qu'il y ait une authenticité. Je parle de gens qui étaient dans mon quartier quand j'étais jeune, qui étaient comme des héros de quartier, tu sais. Alors, je les décris, mais je sais exactement de qui je parle, même si je change les noms, tout ça pour pas embêter le monde, là. Mais, tu sais, il y a une espèce de c'est ce que j'aime beaucoup sur scène. Écrire un livre, je sais pas. J'ai jamais écrit un livre.
J'ai lu dans une entrevue que tu as accordé que t'as des amis qui sont jeunes, de jeunes acteurs, ouais. Éric Bruno, entre autres, puis d'autres. Mm-hmm. Et tu leur as dit, je te cite à peu près, là, c'est important la carrière, mais la vie personnelle puis la famille, c'est important.
Ouais. Mais oui, je sais, on me parle beaucoup de... Non, c'est que c'est un métier qui est très, très accaparant. C'est un métier qui souvent imprévisible. C'est-à-dire que 3 mois avant, tu sais pas exactement ce que tu vas faire. Alors, il y a un côté, c'est très difficile. Moi, par exemple, à un moment donné, je jouais Brou 150 fois par année. À un moment donné, il nous appelle pour jouer dans le bye-bye. Alors, je fais le bye-bye, je fais Brou. Il m'appelle, je passe une audition pour jouer un joueur de hockey dans une série télévisée. Puis là, il m'appelle un samedi matin, puis il dit, vous avez le rôle, ça s'appelle Lance et Compte. J'ai dit, ouais, mais là, ça implique quoi? Ben, vous allez tourner 70 jours. Alors là, puis là, je suis en train de... Je dis, ouais, je ne sais pas. La dame qui m'appelle me dit, si j'étais vous, je le ferais. Et là, bon, moi, j'ai un bébé d'1 an à la maison, j'ai une conjointe, un bébé, on a une vie famille qui commence et vraiment tout à ranger ça en même temps. Je suis carrément pas là parce que je tourne le jour, je joue le soir et ça dure pendant des semaines. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile d'organiser sa vie dans ce genre de contexte-là parce que les horaires sont particuliers. Et en plus, t'es passionné par ça, donc t'aimes ça. Tu y vas, puis tu as du plaisir à jouer, même si...
Puis t'as du succès en plus.
Puis oui, puis là, ben écoute...
Par-dessus.
Ça sort, puis là, ben là, tout le monde aime ça, puis là, je tourne l'ancien compte, puis là, je reçois un appel d'une réalisatrice à Radio-Québec qui me dit, je fais l'adaptation de la pièce Les Voisins. Moi, je rêvais de jouer le rôle de Bernard dans la pièce Les Voisins, comme il y en a d'autres qui m'ont rêvé de jouer Hamlet ou Shakespeare.
Fait qu'il a dit, c'est une comparaison.
Je lisais cette pièce-là et je riais depuis je sais pas combien de temps, mais j'avais, je sais pas, j'étais dans la trentaine, Bernard, il y a 50 ans. Fait que je me disais, puis j'ai joué le fils dans la création de la pièce, puis là, tout à coup, il décide de monter la pièce avec Serge Thériault, moi, puis Muriel Dutille, Paul Baillargeon, qui sommes plus jeunes que les personnages, mais pour donner une espèce de degré à la pièce. Ça fait que là, je dis, mais oui, oui, bien sûr. Alors là, je tourne le soir Les Voisins, où on tourne ça en banlieue à Longueuil, et le jour, je tourne L'Anse et Compte, je dors dans le décor des Voisins, parce qu'ils ont fini de tourner, genre, à 3h du matin.
Ça se peut pas.
Tu sais, il y a des circonstances comme ça. Alors, tout ça pour en venir, c'est ça que je dis des fois aux gars qui sont plus jeunes, d'essayer, mais tu sais, ils m'écoutent pas anyway, puis moi-même, je m'écoute pas, parce que je sais qu'à un moment donné, c'est... Tu sais, la passion de ces choses-là, on sait pas trop à quelle heure ça commence puis à quelle heure ça finit. Alors, c'est ça. Mais c'est pas le seul métier qui est comme ça.
Non.
Tu sais, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Mais conciliation, travail, famille, c'est un peu le problème du siècle.
Oui, puis ça touche pas mal tout le monde.
Ouais.
Tu viens de parler de Serge Thériault. As-tu vu le documentaire?
Non. J'ai pas vu le documentaire. Je pense pas le regarder non plus.
Parce que?
J'ai pas envie. Je sais pas. Serge... On aime beaucoup Serge, nous. On a beaucoup d'affection pour lui. Hein. Je parle de nous, là. Je parle particulièrement tous ceux qui ont fait la petite vie avec lui. Et je sais pas, on a toujours respecté ce que vivait Serge. Il y a plein de gens qui ont essayé de s'en occuper.
De l'aider.
Moi, je sais ça. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'aider. Moi, Serge, je le connais depuis tout le temps, puisqu'on a commencé la même année dans le métier. Donc, on se connaît depuis longtemps. J'ai jamais été vraiment proche de lui, là, mais on se connaît depuis longtemps. Puis, on est un peu embêtés parce que, d'abord, il y a beaucoup de gens qui nous demandent de ces nouvelles, puis on n'en a pas, parce qu'ils n'en donnent pas. Et moi, Serge, j'ai toujours respecté, en quelque part, ce qu'il faisait, comment il était, pour ne pas l'embêter. Mais, puis il y a beaucoup de gens, je sais aussi, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'aider. Je sais pas, s'il y avait eu un témoignage de comment il était, parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu, ça fait longtemps que j'ai parlé avec lui, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. J'aurais aimé ça, mais je pense pas que ce soit le cas dans le film. Non,
on le voit à peine, on l'entend un peu, mais c'est comme si les gens étaient divisés, c'est comme un malaise avec le film, puis en même temps, une volonté un peu de savoir ce qui lui arrive aussi, un désir de savoir ce qui lui arrive.
Ouais,
un
désir de savoir ce qui arrive, parce que on a beaucoup d'affection pour Serge, qui est un bon gars, tu sais. Mais en même temps, on est un peu désemparé parce qu'on sait pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'y parler. On a tous eu un mot de temps en temps pour essayer de voir, mais je sais pas, Serge est comme replié sur lui-même et difficile à atteindre. Enfin, il a toujours été un peu comme ça.
Mais j'ai hâte de voir ça, sur scène, seul.
Oui.
Je rappelle pour ce qui est de Théâtre Outremont à Montréal, 23 et 24 novembre.
Et 2 décembre,
ça je ne l'avais pas sur mon communiqué. 7 décembre, c'est à Québec à la salle, oui. Albert Rousseau.
À Sainte-Geneviève le 30 novembre et le 13 décembre à Gatineau. Et après ça, un peu partout au Québec à partir de la mi-mars.
Et tu vas en faire combien comme ça de...
Je ne sais pas, Paul, tant que... Je ne sais pas, ça dépend. Si les gens sont là, je vais le faire, mais je pense pas battre le record de Brou.
Il n'y a personne qui peut battre le record de Brou.
Il n'y a personne qui peut.
C'est impossible.
Sauf quelqu'un qui a 16 ans, présentement.
Faudrait qu'il commence tout de suite.
Oui, faudrait qu'il commence tout de suite.
Marc, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Plaisir.
Marc Messier, notre invité. Donc, je vous rappelle, si vous voulez le voir en spectacle, c'est au Théâtre Outremont, Montréal, 23, 24 et 2 décembre.
Exact.
Puis 7 décembre à la Salle Albert Rousseau de Québec.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Au début, j'étais contente parce qu'il était tout petit, mini.
Ah ouais?
Il a dit papa!
Maman!
Mais il fait pas grand-chose à part dire...
Papa!
Quoi?
Attaque, on fait caca sur le plancher!
Oh, top!
Wesh! Mais Béatrice, il faudrait laisser les autres s'exprimer aussi.
Ben là, c'est pas de ma faute si les autres...
C'est incroyable, 4e saison de Bébéatrice. Galopage est avec nous. Hey, 4 saisons, c'est quand même pas rien.
C'est fou, hein? Puis en plus, là, on vient de terminer la 4e saison et pendant l'été, j'écrivais la 5e.
Boy. Rappelle-nous comment, bon, on imagine assez vite là, l'origine, mais de prendre l'expérience, père de jeunes enfants, puis d'une petite fille qui a l'air espiègle, qui a l'air bien tenante.
Oui, puis qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup le sens de la répartie, parce que comme tous les papas et les mamans du monde, je prenais en note les mots d'enfants. Tu sais, je l'ai fait avec mon plus vieux, Théo, que je trouvais d'ailleurs assez vif. Mais ma fille Béatrice, c'était une mitraillette, là. Elle avait 4 ans ou 5 ans, là, puis elle avait un sens de la répartie formidable. Et
au point de provoquer des malaises?
Oui, sans aucune gêne. Parce que là, maintenant, elle a 11 ans, évidemment, c'est une ado, elle fait attention, mais un enfant là, qui a de la répartie puis qui est déluré à 5 ans, là, c'est fou, là. C'est une mitraillette que tu lâches dans... Tout peut arriver, tu peux avoir honte, tu peux être fier, tu peux... Alors, j'avais commencé à écrire ça sur Twitter. Éric Godin, le caricaturiste et le peintre bien connu, que je connaissais pas, a fait des petits dessins. Il m'a envoyé ça pour le fun. On riait. On les a présentés à la presse. C'est devenu un petit livre. Hashtag Bébéatrice. Et tout de suite, on nous a demandé de faire un dessin animé. C'est la 4e saison qui va commencer là sur le web le 1er décembre. Il y en a deux parties, 1er décembre et 18 décembre, mais à la télé en format d'une demi-heure à partir du 12 décembre, 4e saison.
Et comment l'enfant, parce que 4e saison, comment l'enfant a vu ça, voir une série inspirée d'elle-même, là, puis de son sens de la répartie à la télé.
Mais là, elle est habituée.
Là, oui, mais au début.
Au début, ben, c'est-à-dire un an après, elle disait que c'était son œuvre de jeunesse. Parce qu'évidemment, tu sais, quand t'as 7 ans, t'es, ben pas, oui. t'es pas comme quand t'avais 5 ans.
Ben non.
Mais je pense qu'elle aime ça, entre autres parce que les amis à l'école, même si des fois il y avait un peu de jalousie, lui en parlaient beaucoup. Elle aime ça, puis là, maintenant qu'elle a 11 ans, là, écoute, bon, qu'est-ce qui se passe cette année encore, là? Puis, tu sais, elle écrivait beaucoup, beaucoup. Là, cette année, elle a écrit beaucoup, beaucoup moins parce qu'elle elle a pas l'âge. À 11 ans, ce qui l'intéresse, ça marche pas tellement dans la série. Ses commentaires sont beaucoup plus adultes qu'enfantins. Mais les trois premières saisons, là, je continuais à prendre des notes, à jaser avec elle. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit gars qui a l'âge de Bébéatrice. Mais c'est un petit gars. C'est pas la même chose. Fait que des fois, il y a des affaires qui sont drôles, puis je les prends en note, mais Thomas, c'est pas Bébéatrice. C'est un petit gars, c'est un autre univers. C'est pas... C'est différent, les gars et les filles. Moi, j'ai compris en allant à l'école, en regardant ma fille, pourquoi quand j'étais en première, deuxième, troisième, quatrième année, toutes les filles dont j'étais amoureux n'étaient pas intéressées par moi. C'est parce que des petites filles et des petits gars du même âge, là, c'est deux planètes différentes. Ils nous regardent.
Mais là, sans règle, on ne peut pas dire ça. Là. C'est supposé...
Moi, je l'ai dit.
Toi, tu le dis.
Moi, rendu à mon âge, ça ne me dérange plus.
Non. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent? Tu avais eu un gars? Dans un premier temps, puis après ça?
C'est que les petites filles ont une maturité. C'est-à-dire, moi, ma fille a 11 ans. Des fois, elle a 17 ans. Mon petit gars, il a 7 ans. Il a toujours 7 ans. Puis dans la cour d'école de ma petite fille et de mon petit gars, les petites filles, ils se réunissent, ils parlent entre elles, elles intriguent. Les petits gars de la maternelle jusqu'à 6e, ça joue au soccer, la tête baissée, puis ça saigne du nez. Tu sais, grosso modo, là, évidemment, il y a des petits gars qui sont pas comme ça, puis il y a des petites filles qui sont pas comme ça, mais tu le vois, là, puis tu demandes ça aux professeurs, parce que va voir les professeurs, puis demande-leur si les gars puis les filles, c'est pareil, puis ils et elles vont toutes te dire...
Ah non, la maturité en partant. Là.
En partant, puis les champs d'intérêt, puis comment tu te défoules. Les petits gars, ça court. Il y en a des petites filles qui courent. Moi, ma fille, elle aime ça courir, mais c'est une autre mentalité, puis... De toute façon, quand je faisais un gars, une fille, c'est un constat que j'avais fait à l'époque. Puis c'est une généralité. Il y a des gars qui sont pas comme les autres gars, puis il y a des filles qui sont pas comme les autres filles. Mais généralement, pour faire une comédie que, où la plupart des gens vont se reconnaître, il y a des stéréotypes de gars et de filles. Puis c'est pas à 5 ans qu'ils épognent ces stéréotypes-là. Moi, je suis pas gars-gars, ma blonde n'est pas fille-fille. Nos enfants sont devenus gars et filles un peu malgré nous, je dirais. C'est en allant à l'école, en regardant avec leurs amis, en regardant les autres enfants qui le côtoient, qui se forment une personnalité. Puis là, tout ton travail de parent, c'est de dire un instant, jeune homme, on parle pas comme ça. Un instant, jeune fille, on dit pas ça ou on fait pas ça ou on intrigue pas, etc. Mais
es-tu capable d'être un père là, comme ça qui dit ça, on fait ça, ça, on fait pas ça, puis ça, c'est pas acceptable? Il y a beaucoup de pères qui veulent être amis avec leurs enfants, puis surtout quand ils deviennent ados, là, puis des mères aussi. Là.
Mais moi, je veux être ami. Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants m'aiment. Là. Mon but,
c'est... Non, mais
que...
aimer, c'est une chose, mais ami, c'est autre chose.
Ouais, mais moi, je veux pas être ami, mais je suis un peu flambeau, je vais t'avouer. Là. L'autorité dans la maison.
C'est
là.
Pas toi?
Bien, quand je me fâche, tout le monde gèle parce que je me fâche pas tant que ça. Tu sais, je me fâche pas souvent. Mais ma blonde, elle, c'est elle l'autorité, puis les enfants... Ça, ils font pas ça. Ça, ils font ça. Puis là, elle me regarde des fois, puis elle dit, là, tu m'aides. Puis là, je dis, oui, maman, écoutez maman, c'est vrai. Mais je me rappelle quand je chicanais Béatrice, puis elle avait 5 ans, puis je la chicanais, là, puis elle me regardait avec un grand sourire, puis elle disait, je t'aime, papa. Puis là, j'ai dit, si, bon. Tu sais, je suis supposé avoir de l'autorité, moi, dans la vie.
Ben, supposé,
dans
oui.
mon travail, là, je suis supposé être un leader. Hey, mes enfants, là, ils me trouvent taouin, là. Ça marche pas pantoute.
Là, t'as, donc, la quatrième, t'as écrit la cinquième.
Oui.
Tu vois ça évoluer comment encore?
Ben c'est un an à la fois. C'est
tu
assez...
décides, puis...
Ben oui, c'est assez long à faire parce que 85 minutes de matériel en dessin animé, c'est comme un film. Là. C'est 85 minutes, c'est un film d'animation. C'est long à faire, Paul. Ça prend un an. C'est pas long à écrire. C'est long à former, à dessiner, à faire les voix, à mettre les
labiales. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un courriel qui me demande de te poser la question. As-tu déjà pensé à faire une vraie bande dessinée, mais pour adultes, là? Genre un Simpson ou un truc comme ça, avec de l'humour mordant. Puis,
À ce monsieur, je vais répondre. Quand tu es un auteur ou un créateur, tu penses à quelque chose, puis la forme vient avec. Tu sais, exemple, moi, comme on l'a déjà dit, j'écris bien. Alors, des fois, les gens me disent, mais pourquoi t'as pas écrit un roman? Tu dis, c'est parce que j'ai pas eu d'idée de roman. Mais je suis sûr que dès que je vais avoir une idée de roman, je vais en faire un. Mais là, c'est plus audiovisuel. J'ai des idées, des scénarisations, des trucs comme ça, mais... moi, je pensais pas, il y a 5 ans, que je ferais un dessin animé. Puis quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, ça va être un petit travail pour ma retraite. Tu sais, c'est facile à faire. C'est l'affaire la plus compliquée au monde. C'est plus compliqué faire 5 demi-heures de bébé actrice que réaliser, monter et jouer dans un film. C'est fou, là.
Je veux parler de la Fondation d'Hôpital Sainte-Justine, oui. Parce que c'est l'opération du temps des fêtes, du fameux sapin. Ça fait combien d'années là, que tu es impliqué?
Mon Dieu, je le calcule depuis que mon fils a été malade. Ça fait, c'est ma 4e année.
4e année.
Ouais.
Puis là, encore cette année, là, les gens peuvent donner un coup de pouce à Sainte-Justine, qui en a bien besoin, comme tous les hôpitaux de Montréal.
Vraiment, tu sais, Sainte-Justine, c'est l'hôpital de tous les enfants malades du Québec et des mamans aussi qui ont des grossesses difficiles, que tu sois à Gaspé, whatever, aussitôt que tu as un problème de grossesse ou qu'un bébé est malade, il envoie Sainte-Justine. Alors, c'est l'hôpital de tous les enfants du Québec. Et pendant le temps des fêtes, il y a des enfants qui sont là, qui sont malades, qui font de la chimio, qui se font opérer, qui se font ouvrir le cerveau. Et parce que la maladie n'arrête pas. Mmh. Il y a des familles dans le besoin souvent de ces gens-là qui viennent de Rimouski avec leur enfant, qui ne savent pas où être logés, etc. Puis le grand sapin, c'est... vous l'avez vu,
oui,
l'image du grand sapin. Cette année, il y a 350 000 lumières. Ça coûte 5 $ la lumière. Les gens peuvent acheter ça. D'ailleurs, je pense que si on se rend à 200 000 d'ici mardi prochain, il y a des commanditaires qui vont donner 50 000 $ de plus. Mais tout ça pour dire que cet argent-là, 70 % va à la recherche, ça je t'en parlerai, et l'autre partie va à toutes sortes d'affaires, dont entre autres d'entretenir financièrement ces familles-là qui sont auprès de leurs enfants malades.
Qui viennent de l'extérieur.
Qui viennent de l'extérieur, puis des fois qui sont dans le besoin. Puis ça coûte 5 $. Tu sais, je pense qu'il y a 1 800 enfants au Québec. Si tout le monde donnait 5 $ juste pour pour chacun de ces enfants-là, déjà le problème serait réglé.
Puis tu parles de la recherche, parce que ça, souvent, quand il y a des fondations, on dit « Ouais, mais on paye des taxes, pourquoi? »
Ben,
la recherche, c'est pas... Il y en a une partie, là,
on
mais...
On paye pas pour ça, nous.
Non,
c'est-à-dire,
ça.
Toi, tu payes... Nos taxes payent pour... Si tu fais une crise cardiaque, tu vas aller à l'hôpital, puis on va te soigner avec les moyens qu'on a aujourd'hui. La recherche, c'est comment mieux soigner ou... régler ou des maladies qu'on n'est pas capable de soigner. C'est à ça que ça sert la recherche. Moi, ce qu'a eu mon fils, il y a eu 2 trucs à Sainte-Justine. Il a fallu qu'il y a quelques années derrière nous, qu'il y a quelqu'un qui trouve les médicaments pour soigner ça. Sans ça, il serait mort. Alors, c'est à ça que ça sert la recherche. C'est important parce
quand
que...
Quand ça se fait ici, les premières découvertes sont appliquées ici, puis les meilleures sont ici.
Enfin, c'est exact, t'as tout compris. C'est un hôpital réputé mondialement, Sainte-Justine. Il y a tout le temps on connaît tous et toutes quelqu'un qui a été sauvé par Sainte-Justine.
Puis tout le monde en parle en direct, aimes-tu ça?
Oui, j'aime beaucoup ça. Bien, comme animateur,
ouais.
Comme producteur au contenu, j'aime moins ça. Parce que je suis obligé d'inviter des grandes gueules. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu reçois quelqu'un, tu fais une entrevue sur le gun pendant 10 minutes. Tu dis, j'espère que ça y prend pas une demi-heure à se ramasser puis qu'il répond pas en circonvolution. Puis je dirais, toi, la radio, tu as quand même l'avantage, entre guillemets, de pouvoir l'interrompre puis dire, excusez, là, c'est pas ça la question que j'ai posée. Mais moi, ça m'oblige à recevoir des gens qui ont l'habitude des médias. Puis ça, je trouve que ça me limite un peu. Parce que moi,
mais vas-tu revenir à l'ancienne formule, tu penses?
Je sais pas. Je dirais non, mais je suis pas fermé à ça, en fait. C'est qu'on va voir. Mais c'est le fun à faire. À date, les gens viennent. Tu sais, moi, je me dis, regarde, non, personne ne va se présenter le dimanche soir à Radio-Canada. Tu sais, tout le monde est occupé le dimanche soir. Non. Non, je veux dire, je pense que c'est encore plus facile à booker le dimanche soir que le jeudi, imagine-toi.
Ah oui?
Ouais, on a... Ça arrivait des fois là qu'on disait « Ah, monsieur le ministre, tu peux pas venir parce qu'il y avait quelque chose jeudi soir. » Mais qui a quel ministre a quelque chose le dimanche soir?
Ben, à part de vous regarder. Ouais, là, il peut être assis de puis être sur le plateau.
Il y a juste François Legault qui a l'air d'être vraiment tout le temps occupé le dimanche soir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il avait fait peut-être du curling, du hockey, mais il n'est jamais, jamais libre quand on l'invite.
Non?
Non, c'est fou, hein?
Il y en a comme ça, ça arrive.
Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais je me dis, ben mon Dieu, s'il peut se divertir le dimanche soir. C'est une ligue de hockey, probablement. Il doit jouer pour les Nordiques de Boscoville, je ne sais pas.
Mais as-tu l'intention de faire ça encore plusieurs années? Ça fait quand même un bail. Là.
Mais je peux te relancer la question.
Moi, je te réponds très facilement, pas encore beaucoup d'années. Mais
moi, je pense que j'ai dépassé la moitié là, après 18 ans.
18 ans, oui, oui, oui.
Non, mais moi, c'est une année. Année à la fois. J'ai jamais signé.
Mais as-tu déjà hésité vraiment de revenir? Y a-tu des années où tu t'es dit, là, je suis vraiment pas sûr?
Il y a des années où je me suis rendu jusqu'à la limite, là, tu sais, de le décider une semaine avant la fin de la saison.
OK.
Puis c'est un peu chiant faire ça aux diffuseurs quand même, parce qu'ils essayent de...
Prévoir.
Oui, alors là, maintenant, je suis plus gentil. Mais disons que je suis chanceux. Mon diffuseur se manifeste toujours très, très, très rapidement. Il me demande si je suis intéressé de revenir. Là, ça va bien. On est super rodés. On a une belle équipe. J'ai l'impression que l'émission sert à quelque chose, mais je ne vais pas m'acharner. Tu sais, au moment où je vais trouver qu'on tourne en rond, que ça ne sert plus, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre.
Je pense que tu sers encore pas mal.
Merci, Paul. Je te retourne l'appareil, comme disait le pirate de l'air. C'est une joke de sol.
Quatrième saison de Bébéatrice. Allez voir une déclinaison sur tout.tv. Puis après ça, il y a 18 épisodes au total. La fondation de l'hôpital Sainte-Justine, officiellement du 29 novembre au 9 décembre. Merci, Guy.
Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Grève dans les CPE, ça dépend évidemment de l'affiliation syndicale, mais dans beaucoup de cas, c'est la deuxième journée. Il y a une troisième qui est prévue demain. Il y aura aussi des votes de grève pour une grève générale illimitée. Pourquoi? Ben, si vous étiez là hier, vous l'avez entendu. D'un côté, Québec dit nous allons augmenter. Et on a déjà passé par-dessus la tête des syndicats. De façon substantielle, la rémunération des éducatrices, mais il n'est pas question d'accorder les mêmes hausses de salaire aux autres employés de CPE, c'est-à-dire employés, par exemple, à la cuisine, l'administration. Eux recevront des augmentations similaires à celles consenties par l'État à des catégories d'emplois semblables. C'est comme un spécial qu'on fait pour reconnaître quelles sont ces éducatrices sous-payées. Depuis le début, on le dit, les parents, de façon générale, sont assez solidaires. On avait un père hier matin. On a une mère qui est avec nous. On va l'appeler Julie. Elle a 5 garçons âgés entre 2 et 10 ans. Alors, il y en a à l'école, il y en a en CPE. Et elles doivent, ces familles-là, composer avec une logistique qui n'est pas facile. Julie, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Parlez-moi un peu de votre situation. Vous êtes tous les deux, donc, vous et votre conjoint, parents, puis vous êtes des travailleurs autonomes.
Exactement. On est travailleurs autonomes. On a une belle grande famille de 5 garçons. Je vous dirais que depuis la pandémie, c'est sûr que c'est difficile sur les finances. Là, quand les écoles ont fermé, les CPE, on a déjà eu un montant d'argent que c'est sûr un revenu qui a été moindre parce qu'on ne pouvait plus travailler autant. Il fallait rester à la maison. Le télétravail, c'était pas super facile. Là, avec l'école à la distance, j'ai quand même 2 TDAH à la maison qui nécessitent beaucoup d'encadrement. Et les bébés, ben c'est sûr que c'est bruyant. Donc, on était 2 pour s'atteler à la tâche. On travaillait les soirs et les week-ends. Donc, c'est sûr que, bon, là, ça a été passé. Puis là, maintenant, la grève, ben je vous dirais que c'est assez intense de notre côté. C'est sûr que le contexte est spécial aussi. L'école de migrants a fermé pour des cas de COVID. Donc, ça fait déjà 3 semaines là, qu'on a les grands à la maison. Au début, c'était une classe, 2 classes, puis après ça, c'était toute l'école qui était fermée. Donc, on faisait déjà l'école à la maison des 3 grands. Et là, les grèves. Là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on doit manquer du travail. Je vous dirais que ça commence à être extrêmement anxieux pour nous, là, parce que on sait pas comment on va faire, ben honnêtement, pour faire l'épicerie à la fin du mois. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, plusieurs centaines de dollars qui partent. Le petit coussin, il est disparu. C'est sûr que l'hiver, avec 5 enfants, c'est 5 sauts d'hiver, 5 bottes, 5 non. plutôt 10 paires de mitaines.
Ouais. Ouais, j'allais dire, Julie, ce que vous me décrivez, là, c'est 5 enfants, école fermée, COVID, grève, CPE. Bon, vous êtes, je pense, assez solidaire, là, puis vous me direz si c'est pas ça, là, des revendications des éducatrices qui s'occupent de vos enfants.
En fait, je suis super solidaire des éducatrices. Moi, je le fais pas leur job, là. Je trouve qu'ils sont super bonnes. Mais moi, ce que je comprends pas en ce moment, c'est que je crois que les éducatrices, ceux qui ont un lien direct avec mes enfants en ce moment, ils l'ont eu, leur augmentation. Je pense qu'ils sont rendus à près de 20% là, pour les temps pleins. Donc, je comprends pas pourquoi que, sans être pas solidaire à la cause, je suis solidaire à la cause. Mais là, je pense que les plus gros points ont été réglés. Je comprends pas pourquoi qu'on impacte encore les familles à la veille de Noël. Puis que là, nos portefeuilles, je suis pas la seule là, qui a beaucoup moins d'argent dans son compte de banque, moi aussi. Avec l'hiver puis Noël qui s'en vient, je comprends pas comment qu'on peut continuer à impacter autant les familles pour les plus gros points. Ils ont été réglés, selon moi. Là.
OK. Le syndicat dit ben les autres catégories d'employés de CPE ont pas eu les mêmes augmentations. C'est une bataille de principes qu'ils tentent de faire, mais vous nous mettez sur la place publique ce matin votre situation, puis vous êtes pas seul dans votre cas, c'est sûr. Là. Travailleur autonome, si tu travailles pas, tu gagnes pas un sou, là.
Tu gagnes pas un sou, non. Puis, tu sais, si t'es pas employé de l'État, là, ou avec, dans une grosse firme, t'as pas nécessairement des journées payées, des journées maladie, les banques de journées. Moi, j'en ai pas personnellement. Puis, j'ai plusieurs amis qui sont dans la même situation que moi, qui sont salariés, puis sont obligés de prendre congé. Bien, ils n'ont pas plus de sous dans leur compte de banque à la fin du mois, là, parce qu'il y a une grève, là.
Ça, c'est sûr. Puis, aujourd'hui, comment vous organisez? Tout le monde est à la maison. Est-ce que les plus vieux sont retournés à l'école, finalement, là?
Là, l'école a réouvert aujourd'hui, donc je suis chanceuse pour ça. Là, aujourd'hui, ben, c'est mon conjoint qui a pris congé avec les deux bébés. Donc là, on essaye de se relayer là, pour que on réussisse à faire nos contrats un petit peu chacun de notre côté. Mais non, c'est difficile.
C'est difficile. Oui, c'est important que votre message soit entendu.
Oui, parce que je sais pas si le gouvernement ou les gardiennes vont venir m'aider à mettre que mes enfants soient au chaud à la fin de l'hiver ou qu'ils aient tout mangé, là, mais là, ce mois-ci, je sais pas comment je vais arriver. Puis là, je suis vraiment anxieuse.
Bonne chance à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Julie, mère de 5 enfants. 2 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hier, c'est un employé donc de l'État. C'est vrai qu'on a des banques de congés puis qu'on est capable, même si on pige dans des vacances et tout ça, de s'organiser. Mais travailleurs autonomes, là. Puis imaginez les 5, là. Puis en plus, COVID. C'est pour ça que souvent, je vous donne cet exemple très concret de famille où l'école ferme, la classe ferme. Puis là, la garderie, 3 jours. Puis OK, jeudi, vendredi, est-ce qu'on va avoir une grève générale illimitée? Pour bien des gens, là, c'est une perte de revenus direct. Puis t'as beau être solidaire puis comprendre leurs revendications, tu dis, en même temps, là, j'écope et j'écope sérieusement.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On apprend dans une entrevue accordée à De Gazette que David McMillan, qui était jusqu'à tout récemment, si vous voulez, copropriétaire, chef des restaurants Joe Beef, Liverpool, Vin Papillon et plusieurs autres, donc il a décidé de remettre sur la table son tablier, justement, après 32 ans dans une industrie qui a beaucoup évolué. Et pas besoin d'insister sur le fait que Joe Beef était un des restaurants emblématiques de Montréal. Il est avec nous ce matin. Monsieur McMillan, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Pourquoi vous avez décidé comme ça de prendre ce pas de côté puis de dire je retourne vers la ferme, mais je quitte l'univers de la restauration?
J'y songe depuis plusieurs années. J'en ai tout le temps parlé à travers mes années 30, mes années 40. J'ai travaillé dans ma jeunesse pour plusieurs cuisiniers qui auraient peut-être dû savoir mieux quand quitter, laisser la place aux autres. C'est sûr que pendant la pandémie, je me préparais peut-être à une sortie vers la ferme avant la pandémie. La pandémie m'a ramené au restaurant, c'est sûr, parce qu'il fallait tous qu'on travaille pour s'en sortir. L'après-pandémie, avec le manque d'employés, a été plus difficile que je pensais. Et tout à coup, j'ai commencé à me réveiller le matin, puis j'avais plus le goût. Puis pendant ma carrière, j'ai tout le temps eu le goût. J'ai une très belle carrière. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai fait des grandes rencontres. Mais on dirait que la dernière année, c'était soit que j'y reste pendant 10 ans, puis j'y donne un autre dernier coup, où il y avait l'opportunité de sortir puis aller vraiment vers quelque chose qui m'intéressait plus, la ferme, fait que j'ai pris l'opportunité.
Je lisais l'entrevue dans De Gazette où vous parlez de la pandémie, évidemment l'impact que ça a eu, difficulté de recruter le personnel. Et vous décrivez un peu, j'allais dire, comment votre tempérament a évolué en disant que peut-être moins patient, plus colérique devant le prix, devant une rupture de stock, un équipement qui brise. Vous aviez perdu votre patience.
Oui, tout. Il était temps que je m'en aille parce que vraiment tout me choquait. T'sais. J'étais en colère contre le trafic, les cônes oranges, la mairesse, l'arrondissement sud-ouest, Hydro-Québec, Gaz métropolitain, la SAQ. À un moment donné, c'est les gens autour de moi, puis je suis très bien entouré de gens qui m'aiment et que j'aime beaucoup. T'sais, David, la seule chose que tu es content, c'est à la ferme. T'sais, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, vous avez raison. T'sais, je vais commencer à écouter les gens parce que, bon, dans ma jeunesse, j'ai jamais écouté personne vraiment. Mais peut-être c'est le temps d'écouter aux gens autour de moi.
Mais vous l'avez mentionné un peu. Vous avez une carrière de 32 ans en restauration. Je le disais, Joe Beef est devenu un restaurant au fil des années emblématique de la gastronomie montréalaise. Vous avez fait des rencontres, j'imagine, extraordinaires aussi. Puis vous dites, l'univers de la cuisine, il y a beaucoup de gens extrêmes là-dedans, des gens qui sont extrémistes, des gens qui malheureusement sont décédés. C'est comme un univers où on peut pas, si on veut réussir, être, disons, modérément passionné.
Non, c'est tout rien. Moi, je suis rentré en cuisine quand j'avais 17 ans, 18 ans, puis immédiatement, en anglais, on dit « I drank the Kool-Aid ». J'ai aucun problème immédiatement d'aller en France, de travailler dans les grandes maisons, de me faire casser le dos, puis vraiment m'appliquer et travailler 80 à 100 heures par semaine. J'y croyais. J'ai appris, j'ai vu des choses en France, en Bourgogne, dans la côte ouest, en Angleterre. J'ai travaillé dans les grands restaurants. J'ai mangé et bu et goûté du vin dans les grands vignobles. C'était tout merveilleux. Très belle carrière, mais éventuellement, bon, on ne peut pas jouer au hockey toute notre vie. À un moment donné, il faut savoir quand retirer ses patins. Puis ça commençait à être ça. Là, j'avais plus vraiment l'amour de la gastronomie. J'ai commencé à prendre le goût de vouloir aller coucher de bonne heure. Je me rendais compte que j'avais pas vu tant de fois le soleil se lever sur un horizon. Fait que toutes ces affaires-là, j'ai découvert aussi un amour d'être dehors, d'être les mains dans la terre, de comprendre comment un pommier ça marche, un poirier ça marche. Comment des poulets, ça fonctionne, toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires, finalement, qu'un cuisinier rêve pendant toutes ces années à l'intérieur d'une cuisine, à cuisiner du poulet, des œufs, du lait, des légumes, mais aussi de maintenant faire plus partie, finalement, de la gastronomie, par participer à la première étape crue de les éléments dans lesquels on cuisine avec.
Est-ce que vous excluez, par exemple, je sais pas moi, sur votre ferme, d'avoir une table champêtre ou un petit restaurant? C'est un scénario possible ou vous dites non, c'est vraiment terminé?
Oui. Oui? C'est absolument quelque chose dans les plans, mais c'est drôle. Un restaurant, ça s'ouvre assez rapidement. Moi et vous pourrions ouvrir un restaurant dans quelques mois facilement, mais une ferme et les étapes de la ferme avec un vignoble et un chai et des poulets, c'est très long. Fait que là, le vignoble est planté, on a le système maraîcher en place. Là, il y a quelques rénovations à faire à la maison principale pour construire peut-être une petite cuisine ou un laboratoire de transformation des aliments. Et éventuellement, je dirais, dans le prochain 24 à 36 mois, c'est sûr qu'on aimerait faire un peu de vin ou du cidre, puis accueillir les gens sur la ferme à Saint-Armand.
Monsieur McMillan, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie pour toutes les fois qu'on s'est parlé et j'apprécie vraiment beaucoup votre émission et vous, M. Arcand.
C'est gentil, M. McMillan. Bonne journée. Au revoir. David McMillan, qui était jusqu'à tout récemment donc copropriétaire des restaurants Joe Beef, Liverpool, Vin Papillon, Vinette, McKernan, qui vend à ses deux autres partenaires ses actions, puis après 32 ans, quitte le monde de la restauration et va se consacrer à la première étape, c'est-à-dire la production à la ferme.
C'est 23.